France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Goldorak, Albator, Candy, Dragon Ball ou Naruto, si ces noms vous disent quelque chose, c'est bien la preuve que le manga a conquis la France et ce depuis plus de 30 ans. Des livres, parfois déclinés en dessins animés, la BD japonaise a même droit à tous les honneurs cette année au Festival d'Angoulême qui ouvre ses portes demain. Il y a sur place Manga City, c'est un pavillon de 2500 m² réservé à cet univers. Bonjour Grégoire Hello.
Bonjour.
Vous êtes directeur de collection de la maison Kurokawa, c'est l'un des plus gros éditeurs de manga en France. La France, c'est bel et bien l'autre pays du manga après le Japon.
Tout à fait, nous sommes le deuxième pays consommateur de manga au monde après le Japon. Et 2018 a d'ailleurs été une année record puisqu'on en a vendu 16 millions.
Et jamais il y a eu autant de mangas vendus en France.
Non, voilà, c'est l'année record. L'année record jusqu'à présent, c'était 2009. Et là, on a vraiment explosé les compteurs. On a fait un chiffre incroyable et c'est encore en progression depuis 4 ans.
Et ça représente quelle part du marché de la BD?
Alors, on estime à peu près à 38% de la BD, c'est du manga. En termes de volume, en termes de chiffre d'affaires, c'est différent parce que les mangas sont beaucoup moins chers. Mais en volume, c'est 38%.
Et les libraires arrivent à suivre avec autant de livres à vendre?
Ben justement, c'est-à-dire qu'au début, c'était assez compliqué parce qu'ils comprenaient pas. Quand on parlait aux libraires il y a encore 10-15 ans, c'était, on sait pas, on les met sur les tables, ça part tout seul. Aujourd'hui, évidemment, il y a des libraires curieux qui s'y sont mis et il y a aussi, des jeunes libraires qui ont été embauchés et qui eux connaissent le manga, qui ont été baignés là-dedans depuis leur enfance et qui du coup savent conseiller, mettre en avant les titres qui leur plaisent et qui savent de quoi ils parlent.
Alors, il y a une curiosité, pour la France, c'est que le manga est arrivé chez nous par le dessin animé.
Tout à fait. Bah, ça a été le cas de la plupart des autres pays, Espagne, Italie. C'est-à-dire qu'en gros, Goldorak, Candy, Albator débarquent à la fin des années 70.
Le premier, c'est Goldorak? Le tout premier?
Je suis né... Goldorak arrive, j'ai 3-4 ans. Donc oui, moi, c'est toute ma vie. Et donc, du coup, on aime ça. On trouve ça super quand on est enfant. Et au fur et à mesure, on grandit. Donc derrière, il y a le Club Dorothée qui enchaîne avec les Chevaliers du Zodiac, Ken le Survivant, etc. Et les dessins animés japonais proposent un style de narration et des histoires qui sont beaucoup plus profondes que ce que proposent les dessins animés américains à l'époque, qui sont plutôt, on va dire, dans la retenue.
Là avec où une morale à la fin, voilà. Ce qu'il n'y a pas du tout...
Justement, au Japon,
dans les mangas.
On propose des choses, en japonais, il y a une expression qui dit on n'essaie pas d'arnaquer les enfants. Donc on propose des choses qui sont vraiment très émouvantes, qui vont toucher les enfants, et c'est pour ça que quand les enfants deviennent adolescents à la fin des années 90, et que Ségolène Royal fait tout le bazar, genre les dessins animés japonais ça rend fou, et qu'il n'y en a plus à la télé, y a une demande. Et donc à ce moment-là, les premiers mangas papier sont publiés et les jeunes adultes, les adolescents qui ont regardé des dessins animés et qui n'en ont plus et qui continuent à aimer ça, se jettent sur les mangas. Et à partir de là, le bouche à oreille fait que...
Donc le développement des mangas donc en version livre, du manga papier, proprement parlé, en version papier, c'est parce que le Club Dorothée a été arrêté à la télévision, c'est ça?
Il a bien fallu trouver un palliatif.
Donc
le papier a été... Alors les mangas sont apparus un peu avant la fin du dessin animé japonais à la télévision, mais c'est vraiment le manque qui a aussi créé le besoin d'en consommer.
Et pourquoi ces dessins animés sont arrivés à la télévision? Pourquoi ceux qui géraient ces émissions, vous parliez, c'était d'abord sur Antenne 2, après TF1, ont fait venir des dessins animés japonais parce qu'ils étaient eux-mêmes fans ou par opportunisme? Parce qu'il y avait
un opportunisme total. Il y a un livre qui est sorti sur les mémoires de la personne qui a découvert Goldorak. Il faisait du business, il faisait de l'import-export et il tombe sur Goldorak dans sa chambre d'hôtel à Tokyo. Il dit il me faut ça parce qu'il connaissait un gars qui bossait à Antenne 2, donc il ramène les bobines. À l'époque, ça coûtait rien, un dessin animé japonais. Pour le prix d'une saison, vous aviez deux épisodes produits en France. Donc c'était vraiment par opportunisme commercial. Mmh. Et ça a plu, ça a pris, ça a explosé. Hein. Goldorak, je rappelle, c'était entre 90 et 100% d'audimat.
Et ça a même fait la une de Paris Match, j'ai vu ça à l'époque.
Ouais.
Et pourquoi ça marche alors? Parce que quoi, c'est sans filtre justement ce que vous disiez, on parle de tout?
Alors les mangas, ça va de la petite enfance, c'est très sectorisé le manga. Hein. Ça va, il y en a pour hommes, il y en a pour femmes, il y en a pour hommes de 40 ans, pour femmes de 40 ans au foyer, des femmes de 40 ans actives, etc. Mais le cœur de cible du manga, ça reste l'adolescent. Parce que justement, dans le divertissement, on va dire, occidental, que ce soit américain ou français, on a souvent un peu la honte, où on est un peu gêné de mettre en avant des histoires d'amour, alors que au Japon justement on va pas hésiter à creuser la psychologie des personnages, et c'est-à-dire que vous allez avoir des super-héros qui peuvent péter des murs à coups coups de poing ou qui peuvent sauter, qui peuvent sauver le monde. Mais dès qu'il y a une fille, voilà, dès qu'il y a une fille qui arrive, il bredouille. Voilà. Donc c'est vachement plus facile pour un adolescent de s'identifier là-dedans.
Et puis il y a du second degré aussi.
Énormément. Ouais.
Qui a peut-être moins dans des dessins animés américains ou dans la BD franco-belge peut-être.
Tout à fait. Le manga a peut-être plus de recul sur lui-même, je pense.
Et on a l'impression aussi que là, je parle au niveau du dessin, rien n'est atténué. Quand quelqu'un se prend un coup de poing dans le nez, il se le prend vraiment. On voit quoi.
Bah, c'est-à-dire que c'est presque peut-être plus dangereux de laisser les gens s'imaginer que de leur montrer. Et puis surtout, le manga, c'est produit comme une lecture qui doit aller vite. C'est presque du storyboard, le manga. Hein. À la base, le manga, ça existe parce que c'est vendu dans des gros magazines que les gens feuillettent dans le métro ou dans le train avant d'aller bosser ou avant d'aller à l'école. Donc, faut que ça aille vite. Donc, faut que l'action soit extrêmement dynamique et qu'on saisisse tout de suite l'impact pour pouvoir passer à la suite de l'histoire.
Vous dites, on le feuillette dans le métro. Ça aussi, ça fait peut-être partie du succès. Son format, on peut le mettre dans un sac et limite dans une poche.
Oui, tout à fait. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que ma société s'y est mise.
Les ados adorent. C'est pratique, quoi.
Voilà, tout à fait. C'est très facile. Et puis, c'est pas cher. Hein. Un album de BD aujourd'hui, c'est 12-15 euros. Là où un manga, c'est entre 6 et 7 euros. C'est beaucoup plus facile à se procurer.
Certes, sauf qu'il y a beaucoup plus d'albums qui sortent en un an. Des Tintins, il y en a plus, mais des Astérix, c'est pas tous les jours, quoi. Alors que là, des mangas, il y en a parfois plusieurs par an, quoi. Donc, d'une même série.
Ah, bah oui, c'est des longues sagas. En fait, le processus éditorial au Japon fait que tant qu'un manga marche, il faut le continuer. Même si parfois l'auteur tire un peu la langue, dit non, mais vas-y, t'as qu'à dire qu'il avait une sœur, ou rajoute un méchant, ressuscite machin, pour qu'on se retrouve avec des sagas de 30, 60, 80 tomes. Parce que quand ça marche, il faut que ça continue. Mais par contre, le jour où les lecteurs abandonnent, on dit au gars, bon, bah c'est terminé, t'as 3 chapitres pour finir ton histoire. C'est aussi un peu impitoyable.
Est-ce qu'il y a des mangas français aujourd'hui?
Bien sûr. Bah,
qui se vendent au Japon?
Alors, il y en a quelques-uns. C'est assez rare, évidemment. Hein. C'est quelque chose qui est... Mais il y en a un. Il y a pour énormément de jeunes gens qui rêvent de devenir dessinateurs de manga, il y en a un qui a vraiment réussi le rêve de tous. Donc, c'est un auteur qui s'appelle Tony Valente, qui fait un manga qui s'appelle Radiante, qui a eu l'honneur suprême d'être adapté en dessin animé au Japon. Voilà, c'est incroyable, un Français qui dessine un manga et ça devient un dessin animé japonais.
Merci beaucoup Grégoire Allo, vous êtes directeur de collection de la maison Kurokawa et vous avez entre les mains un nouveau livre, une nouvelle série.
Voilà, tout à fait, c'est notre nouveauté du mois de janvier, ça s'appelle My Home Hero. Alors c'est pour prouver que le manga va un peu partout, là c'est un thriller en manga. C'est l'histoire d'un père de famille qui va essayer d'arracher sa fille aux mains des Yakuza. Bon, le problème c'est que c'est un cinquantenaire un peu bedonnant, il a aucun super pouvoir, il a rien.
Ça c'est pour qui? Adolescent,
voilà.
Adulte?
Ça c'est jeunes adultes, voilà, parce que bon quand même ça saigne un peu, hein, les Yakuza, c'est pas des rigolos.
Merci beaucoup Grégoire Allo, invité du 5-7 ce matin.
Merci à vous.